J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le gouvernement congolais a finalement accepté la collaboration de l'ONU dans les enquêtes sur les violences survenues dans les provinces du Kasaï après un ultimatum lancé par le Haut Commissariat droits de l'homme mardi dernier. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, la RDC accepte de se faire aider par quiconque, y compris par le Haut Commissariat droits de l'homme des Nations Unies et même les privés qui peuvent aider à approcher la vérité dans les atrocités qui se sont commises dans les Kasaï. Pensez-vous qu'une collaboration internationale est vraiment opportune? À l'adresse pa@radiocapi.net, commentez ce sujet et participez au débat qui se tient aussi sur notre page Facebook. En direct sur les ondes de Radio Capi, appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80. Nico Kalambay et Mimi Kindou concourent à la production de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebujangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Congolaise, Congolais, le roulement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Comment s'enrôler?
C'est facile, il suffit de vous rendre au centre d'inscription le plus proche muni de votre pièce d'identité ou tout autre document officiel autorisé.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Voilà la grande question pour au fait échanger avec vous, chers auditeurs, partout où vous êtes, à Kinshasa, à RDC et aussi à l'étranger. Pensez-vous qu'une collaboration internationale est vraiment opportune? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup à dire sur cette enquête, dès lors que les gouvernements congolais s'étaient déjà engagés dans cette dynamique de pouvoir chercher la vérité ou tracer la vérité par rapport à dans les atrocités qui se sont commises dans les Kasaï. Vous avez également dans le chapitre, vous êtes nombreux à pouvoir déjà poster vos commentaires sur notre page Facebook. Timothée Mukini, vous êtes à Kananga et vous nous avez écrit en disant que l'enquête internationale, oui, mais pour quelle finalité? Moi, je trouve que ces retards affichés par le gouvernement pour enfin accepter cette enquête internationale était une stratégie pour dissiper d'autres parties de preuves, surtout celles de fausses communes. L'enquête serait nécessaire et salutaire pour les Kasaï si on parvient à punir les auteurs matériels et intellectuels de ces crimes et à louer des dommages intérêts pour les victimes afin de réparer moralement ces préjudices subis. Mais s'ils se limitent seulement à constater les faits et faire les dénonciations comme d'habitude, peu importe les termes, cela ne servira en rien car sera Maluku bis dont nous connaissons l'issue. L'enquête internationale est nécessaire car le gouvernement présumé impliqué dans ces crimes ne pourrait à lui seul établir la vérité. Il ferait tout pour masquer la vérité et punir des personnes autres que le véritable criminel. C'est le cas d'ailleurs de cette procès parodie qui se tient déjà, nous dit héritier Monsona depuis Kolwezi. Et Mokambo depuis Kinshasa, quant à moi, je pense que cette enquête internationale est opportune car elle donnera de l'éclairage sur des faits commis, même si la ligne de conduite est gardée par le gouvernement de la RDC, que ces enquêteurs travaillent toujours en toute liberté et neutralité pour qu'ils aboutissent bien, enfin, qu'ils amènent les résultats dans le bon, parce que la chose étonnante en RDC, c'est que les vrais acteurs des crimes sont parfois libres, mais les gens qui sont arrêtés après des exactions, c'est parfois les élèves. C'est comme ce qui se passe actuellement dans les procès qui s'est ouverte au Kasaï, où un agriculteur a été présenté comme présumé coupable, et également un élève de sixième année dans ses affaire. Une fois encore, merci de votre fidélité, chers auditeurs. Maître Likonza, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Pensez-vous qu'une collaboration internationale est vraiment opportune sous la direction de la RDC?
Bien, merci. Je pense que cette situation appelle à plus de loyauté, honnêteté, sincérité, transparence vis-à-vis du peuple congolais, que ce soit pour le gouvernement congolais que pour les Nations Unies. Tous doivent savoir que le peuple congolais a besoin de connaître la vérité de ce qui s'est passé dans les Kasaï. Dans notre pays, nous avons une mauvaise habitude que après des décès inopinés, quand quelqu'un meurt, on refuse d'organiser, on refuse d'organiser des enquêtes ou d'ouvrir, diligenter une autopsie, comme le cas pour notre compatriote Papa Wemba qui est décédé dans des conditions que nous connaissons aujourd'hui. On voudrait empêcher à ce que les enquêtes s'ouvrent dans les Kasaï pour empêcher également le peuple congolais de connaître la vérité des drames survenus dans cette partie du pays. Et nous sommes très contents d'apprendre que le gouvernement congolais a finalement accepté la collaboration de la communauté internationale dans les enquêtes. Mais si déjà au niveau interne, le gouvernement a pu réaliser quelque chose en termes d'investigation d'enquête, cela n'empêche pas à la communauté internationale d'élucider aussi à sa manière les circonstances des tueries de nos compatriotes du Kasaï. Et donc, à ce moment-là, on va confronter les résultats d'enquête du gouvernement congolais.
Alors Maître Likonza, est-ce que vous partagez l'avis de ces internautes qui estiment que il y a quand même une certaine nébuleuse dans cette affaire, dès lors que tout le monde s'était déjà engagé dans cette dynamique de pouvoir retracer la vérité dans cette affaire? On a vu le général Pondé au fait présenter quelques suspects au niveau de l'armée, et aussi la suite avec le procureur qui avait annoncé des enquêtes qui devaient être faites autour de présumés suspects, notamment l'honorable Clément Kankou, et aussi aujourd'hui avec l'enquête qui a été en fait les procès qui s'est ouverte au Kasaï, certains internautes estiment que voilà, il y a quand même une nébuleuse, parce qu'à chaque étape on présente des présumés suspects, et puis finalement silence radio, on ne sait plus suivre de près la vérité.
En tout cas, si pendant lors des massacres, tout le monde n'avait pas mobilisé les énergies pour empêcher les tueries des Congolais vivant dans les Kasaï, il est maintenant grand temps que chacun puisse prouver sa non-responsabilité, sa non-culpabilité dans ce qui s'est passé dans cette partie du pays. Je crois que nous avons suivi, comme vous avez dit, la situation, mais ce qui nous a beaucoup plus inquiété, c'est la situation de l'ancien opposant Clément Kankou. Puisque j'ai dit l'ancien parce que quand on entre au gouvernement, automatiquement on perd la qualité d'opposant. Ça, c'est en démocratie. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Sa situation nous a un peu dérangé parce que lorsqu'on a cité son nom dans les journaux américains, New York Times, lui-même il a voulu organiser un point de presse, mais les journalistes ont été chassés par les agents de l'ordre. Cela ne nous a pas laissé indifférents et jusqu'à présent, ça nous inquiète. Il faut qu'on lui laisse le temps de s'exprimer lui aussi en attendant son éventuel procès. Et là où on a organisé des procès, nous voulons assez que les gens qui sont dont la culpabilité est établie soient condamnés et présentés à la population qu'ils sont peut-être incarcérés dans telle prison et qu'on identifie ces personnes-là. Aussi, nous devons quand même reconnaître que dans notre pays, il y a aussi une tendance à tout imputer aux opposants. Dans la situation qui s'est qui s'est passée dans les Kasaï, il n'y a pas que des opposants. Donc, on doit aussi rechercher dans les sillages de la famille politique du président de la République pour voir qui avait même mis sur ce qu'on a appelé les adeptes de Kamuina Nsapu. Si on ne peut pas comprendre que dans un pays où il y a une armée.
Alors, donc, si je comprends bien, Maître Likonza, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui, Maître Likonza, on ne peut pas aller plus loin avec vous. Oui, on ne peut pas aller plus loin. Donc, si je comprends bien, pour vous, cette enquête, cette collaboration internationale est vraiment opportune, parce que ça pourrait permettre à ce qu'on puisse établir la vérité des faits. Merci. Merci beaucoup, Maître Likonza. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Likonza. On va prendre Maître Adrien qui est sur place à Kadanga. Maître Adrien, bonjour.
Bonjour J.R. Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Est-ce que vous estimez comme les autres que cette collaboration internationale, elle est vraiment opportune?
Merci beaucoup J.R. de la parole que vous m'accordez. J'aimerais d'abord vous briefer que pendant que je vous parle, je suis à l'audience, à proprement dite, parce qu'il y a les avocats de deux prévenus qui sont en train de développer leur exception soulevée autrefois. Et nous attendons la réplique du ministère public et aussi la position du tribunal. Donc, pour revenir maintenant à la question, hier, lorsque la population kassaïenne dans son ensemble a appris que le gouvernement congolais a enfin accepté donc l'enquête internationale, c'était une réjouissance terrible parce que toute la population veut avoir la vérité autour de cette situation qui a vraiment mis tout le monde très 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 mal à l'aise.
Oui, Maître Adrien, donc, je crois que nous devons quand même bien nous situer. Est-ce que, parce que à croire le propos au fait des bouches autorisées du gouvernement, notamment madame la ministre des droits humains et qui avait annoncé cela, et ou encore les porte-parole du gouvernement, tous deux ont parlé beaucoup plus de la collaboration de l'ONU ou encore de n'importe qui pour rétablir la vérité dans cette affaire. Juste la collaboration. Est-ce qu'on peut parler d'une enquête internationale ou d'une simple collaboration ou d'une enquête conjointe?
Oui, Gérard, c'est là que moi je voulais maintenant dire qu'il ne faut pas que le gouvernement puisse jouer au jeu des mots. Soit le gouvernement est d'accord avec la collaboration, je ne sais pas, qu'est-ce que lui-même le gouvernement entend par collaboration. Parce que ici, nous, de la CAJ, nous avions exigé une enquête internationale. Pourquoi? C'est pour éviter ce genre de ping-pong que nous sommes en train d'assister tous les jours. Hein? On ne peut pas quand même se jouer de la population. On présente un petit garçon que je suis en train de voir là, et aussi avec un monsieur, et d'office, on qualifie ça d'un crime de guerre. Donc, c'est pour éviter ce genre de choses et des accusations inutiles. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce genre de mots, donc de ping-pong, non, voilà, une collaboration de tout le monde. Non, nous avons besoin tout simplement qu'on puisse lever l'équivoque. Soit.
Maître Adrien, ne pensez-vous pas que c'est une enquête internationale, ça sera des trop, parce que l'enquête, en fait, le gouvernement congolais s'était déjà engagé dans cette dynamique de pouvoir établir la vérité en ouvrant déjà des procès ou en commençant déjà avec des enquêtes congolaises. Maître Adrien?
Oui, je vous écoute, JR.
Est-ce que vous n'estimez pas que ça serait de trop? Parce que déjà, le gouvernement a déjà ouvert une enquête sous sa propre direction.
JR, si c'est pour l'établissement de la vérité, on ne peut pas dire que c'est une enquête de trop parce que l'enquête ouverte par le gouvernement laisse tout le monde sur sa soif avec des accusations de part et d'autre. Et puis, vous verrez que dans tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est difficile de voir que le gouvernement s'indexe lui-même. Hein, il est en train de chuter des pailles à gauche, à droite. Mais nous estimons que une enquête de trop, non, mais il faut chercher quand même une enquête crédible qui pourra faire à ce que tout le monde sache qui a fait quoi à la situation du Kassai, qui a contribué avec quoi. C'est comme ça qu'on doit faire des choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en commençant par mon speech, je vous ai dit que ce que nous assistons comme accusation à Kananga dans le Grand Kassai, c'est tout simplement malheureux. On ne peut pas accepter ce genre d'enquête. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se faire juge et partie au même moment. Parce que le gouvernement est aussi indexé quelque part. Il y a aussi ceux-là qui ont aussi contribué avec de carnage Donc il faut qu'il y ait une personnalité neutre qui pourra maintenant donner la vraie version des faits. Voilà, toi tu as fait ceci.
Voilà, merci beaucoup, maître Adrien. Je crois que.
Donc là, je pense que voilà, c'est clair.
Merci.
Au jour d'aujourd'hui, hier.
Oui, maître Adrien, je crois qu'on va arrêter, on va s'arrêter là avec vous. Le temps pour nous de prendre ingénieur Valérie, avec qui on va également dégager les forces de cette collaboration internationale dans cette affaire et également les faiblesses. Qu'est-ce qui peuvent constituer comme des écueils par rapport à cette démarche? Mais au moins, nous nous posons également la question, pourquoi deux jours après que le gouvernement ait levé une option de cette enquête internationale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme est encore revenu pour au fait marteler, pour dire que voilà, les propos sont insuffisants. C'est-à-dire, bon, si nous réfléchissons, nous interprétons ces langages, nous dirions qu'effectivement, la position n'a pas été, l'option n'a pas été clairement levée. Merci, maître Adrien. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous à Kindu, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs.
Et quels peuvent être les aspects positifs de cette...
Une question, je me réveille à la prendre.
Allez-y. Allez-y.
Mais non, c'est vous qui avez une question. Vous avez prévu une question à me poser.
Oui, je disais tout à l'heure, ingénieur Valérie, est-ce que vous pensez comme les autres que cette collaboration internationale est vraiment opportune? Est-ce que vous pouvez nous dégager un peu ce qui peuvent constituer des opportunités de cette collaboration internationale et aussi des menaces, donc les forces et les faiblesses, ou encore le point positif et le point négatif?
Merci bien. Bon, nous parlons collaboration, mais... Le Haut Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, lui, parle plutôt d'une enquête internationale. Alors là, maintenant, il y a chevauchement. Mais en tout état de cause, je pense qu'un travail extérieur est nécessaire à plus d'une raison. Pourquoi? Je prends un exemple élémentaire. À supposer que le gouvernement mène ses enquêtes et dit in fine que non, voilà, j'ai trouvé qu'il y a ceci, il y a cela, mais même l'État n'est pas ne plus impliquer en rien. Je crois que un tel résultat ne satisfera pas les gens. Mais parce que il y a eu certains anciens ministres de l'Intérieur qui sont cités dans cette affaire, il y a certains membres certains anciens membres du gouvernement qui sont déjà cités. Au regard de tous ces deux points-là, moi je pense que la collaboration ou même l'enquête internationale, pourquoi pas, est nécessaire afin d'apaiser tout le monde. Parce que vous savez, il n'y a que la justice est quand elle est bien rendue, que tout le monde est apaisé. Parce que rendre justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Que celui qui mérite l'acquittement soit acquitté, que celui qui mérite la condamnation soit condamné, et celui qui mérite aussi la récompense soit dédommagé. C'est ça, rendre...
Oui, mais ingénieur Valérie, quel regard portez-vous sur ces rebondissements que nous observons, que nous constatons dans les différents procès ou encore dans ces cheminements de l'enquête, lorsqu'on présenta d'abord les présumés suspects qui étaient des militaires, par la suite c'est un opposant qui était par la suite devenu membre du gouvernement, de la majorité, et aujourd'hui c'est un jeune garçon de sixième année secondaire et un paysan qui sont présentés comme de présumés suspects. Bon, voilà, alors, ces différents rebondissements, quel regard portez-vous sur ça?
Oui, d'ailleurs, j'ajoute encore un autre élément que vous n'avez pas ajouté. On nous a dit par l'auditeur, je crois qu'il y avait 16 suspects ou 18, il y en a qui ont fui et on a retenu que les deux petits garçons-là. Dans tout cela, vous comprenez que c'est ça les indices des méfiances de la population vis-à-vis de la procédure. Il y a déjà quelques indices de la méfiance. À ce moment-là, nous devons accepter qu'il y ait une enquête internationale. Ce n'est que cette enquête qui, complétée au travail qui est déjà fait, que les gens seront apaisés. Vous savez, même quand nous parlons trop de la souveraineté, moi je crois que c'est parce que nous sommes souverains que nous avons ratifié les traités d'accords internationaux. Si l'État congolais est souverain, c'est parce que le peuple congolais est au départ souverain. Et la souveraineté qui appartient au peuple est justifiée à plus d'un degré au niveau de la Constitution. Primo, on ne peut pas adopter une Constitution sans passer par le peuple, qui est la loi fondamentale. Deuxièmement, tous les jugements sont rendus au nom du peuple. Et troisièmement, la Constitution donne même au peuple encore l'occasion de faire voir qu'ici il n'est pas d'accord et là-bas il est d'accord. C'est parce que le peuple est souverain que l'État congolais est souverain, ça j'insiste. À ce moment-là, nous avons utilisé cette souveraineté pour ratifier les traités et accords internationaux. Et si l'étranger, quelles que soient les différentes institutions internationales, vais intervenir au terme des accords et des interactions que nous avons signés. Moi, je ne peux pas parler de l'ingérence. Il y aura ingérence s'ils viennent en dehors des mécanismes qui nous ont engagés. Vous savez, quand on parle de l'espace Kassai, et soyons quand même humains, mon cher, je ne vois pas pourquoi le peuple kassaïen doit toujours payer un sang très lourd en versant son sang dans des périodes qui caractérisent de grandes limitations sociologiques dans ce pays. Mmh. Je m'en vais vous retracer l'histoire. En 59,
oui, rapidement, oui.
Le Belge qui l'avait lui-même pris au Kassai pour l'amener au Katanga, l'avait opposé au Katangé. Et ils ont été refoulés par des fois. En 60, on les a opposés entre eux lorsqu'il n'y avait qu'une seule province du Kassai, dans la guerre appelée les Lulua et les Baluba. Et après cela maintenant, on connaîtra encore les massacres de Katekelaï. Nous sommes dans les années 80. C'était peu avant ou peu après l'accord de Badolité, je n'ai pas vraiment la précision. Mais c'était un massacre qui avait eu lieu dans le Kassai oriental, dans une certaine mine de diamants où on avait recelé beaucoup de diamants. Le maréchal a envoyé des gens, on a massacré, et l'IDPS avait réagi, c'était vraiment du boom au niveau international. En 92, d'abord, de 89
avec cette affaire de l'épuration de...
pendant la période...
Oui, au niveau
pardon,
du Kassai.
S'il vous plaît, c'est très important, mon frère.
Allez-y, parce que sinon, vous allez prendre tout votre temps. Okay, voilà. Allez-y.
D'accord. De 82, date à laquelle l'IDPS avait marqué son apparition, jusqu'en 90, c'est que nous appelons la période de clandestinité. On a pas mal massacré les Kassaïens par le régime de la Deuxième République du maréchal Mobutu. En 92, lors du génocide kassaïen au Katanga, on les a encore massacrés et refoulés. Vous avez déjà suivi Kichibanda avec l'histoire d'un train qui devait arriver une fois par gare, hier, une fois par mois à la gare. Mais papa, est-ce que les Kassaïens, ce sont les bêtes qu'on donne dans la boucherie pour qu'on les massacre chaque fois qu'il y a des grandes limitations sociologiques? Non. Il faut une enquête internationale.
Voilà. Alors, parce que vous parlez, parce que vous avez évoqué, j'allais dire Valérie, des traités et accords internationaux, régulièrement à signer. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, on n'a pas besoin d'une enquête internationale dès lors qu'on sait que nous, la RDC est signataire ou encore a ratifié le statut des Roms? Aujourd'hui, la part de la CPI devait être quand même mise à contribution. C'est-à-dire pour avoir quelques éléments, dès lors qu'on sait que la procureure avait annoncé déjà enquêter la situation des crimes contre l'humanité en RDC depuis 2004.
Oui, tout à fait. Pour autant que nous avons ratifié tous ces accords, y compris les traités de Rome, la CPI a le droit d'intervenir. Même si nous-mêmes, nous ne portons pas plainte. Parce qu'il y a trois modes de saisine à la CPI. Le gouvernement d'une république peut bien saisir la CPI, le procureur lui-même. Alors, dans tout cela, il y a un troisième mot qui m'échappe. Donc, ce qui fait que le procureur est en droit d'enquêter. Même dans notre pays, chaque fois qu'il y a mort d'homme, on n'attendra pas qu'il y ait un dépôt d'une plainte. Non, le procureur de la République peut déjà se saisir.
D'une mort
dans sa juridiction.
Merci.
Donc, c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'il y ait eu plus de 40 fausses communes. C'est trop. Les Kassaïens ne sont pas des bêtes qu'on doit mettre à la boucherie, on ne doit pas les massacrer, ils ont droit à la vie, et quiconque est...
Voilà, alors, ingénieur Valérie, merci. Merci beaucoup, on va terminer cette première série des auditeurs. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. On comprend qu'il y a vraiment de la passion dans ce débat. Maître Serge nous a rejoint également à ce niveau du débat, et il est à Kamina. Maître Serge, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour aussi à tous les milliers d'auditeurs de la radio Katik qui nous écoutent à ce moment.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, moi je crois que seulement cette enquête est à saluer. Et puis qu'elle ne s'empire pas. Pourquoi dans notre pays, il y a ces gens-là, les vrais auteurs, sont ceux qui étaient des familles. On ne les condamne pas. Et même si on est condamné, on peut les mettre dans quel genre de prison? Oh, il y a toujours des gens qui sont en train de fuir et tuer les autres. Ils sont seulement des bandes de gens-là. Des fois, ils fallait revoir notre élément de code pénal et notre constitution. Ces gens-là qui sont en train d'inquiéter les familles, il faut les prendre publiquement pour les décourager. Ce n'est pas vraiment... Même dans les mouvements sérieux et tout, on n'a jamais su qui était auteur de tout cela. Mais on est en train de résoudre les problèmes et on fait sous l'oreille comme si ce sont les bêtes ou les animaux qu'on est en train de tuer comme ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Serge. Merci beaucoup, Maître Serge. 09-97-06-49-69 ou encore le 09-97-06-63-80 pour votre intervention en direct.
informés, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens où nous parlons de l'opportunité ou non d'une collaboration internationale dans cette affaire au Kasaï. Maître Henri, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maître Henri.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Alors vous êtes coordonnateur du réseau des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Vous suivez de près cette actualité. Et quel regard avez-vous sur la demande de Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et également la position, l'option qui a été levée par le gouvernement?
Merci Monsieur le journaliste. Il faut relever ici que nous nous retrouvons face à des problèmes si sérieux, comme on voit aussi la passion, je dirais pas la passion, je dirais les points de vue divergents sur la question. C'est vrai qu'une enquête internationale fait toujours du mal aux autorités du pays, parce que quelque part, quand on parle de violation des droits de l'homme, quand on parle des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, il y a une part de responsabilité pour les dirigeants. C'est surtout ça le problème, parce que ils peuvent d'une manière ou d'une autre se trouver être impliqués, n'est-ce pas, dans cette affaire, dans pareilles affaires. Bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence. Voyons maintenant la question même de l'enquête internationale. Il faut que l'on retienne qu'il y a des enquêtes judiciaires qui sont menées. C'est le procureur général de la République pour le cas sous examen, qui a même déclaré qu'il avait lancé des enquêtes judiciaires par rapport aux deux experts de l'ONU qui sont décédés, et plus tard c'est par rapport à toute la question des
forces communes qui sont sur le territoire ou la présence.
Oui, Maître Henri, on a de plus en plus, on est en train de vous perdre parce qu'il y a, une mauvaise liaison de communication avec vous. Est-ce que vous pouvez peut-être sortir de là où vous êtes? Ou vous déplacez carrément?
Ok, c'est bon. Alors, nous disons qu'il y a les enquêtes internationales lorsqu'il peut y avoir une décision. Pour le cas en examen, on demande, c'est le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui demande au Conseil des droits de l'homme de créer une commission d'enquête internationale. Là, c'est une commission qui est créée par le Conseil des droits de l'homme. On connaît les personnes qui sont désignées par le Conseil des droits des Nations Unies pour les droits de l'homme, et ils ont une mission bien spécifique. Et d'autre part, une commission peut collaborer avec les autorités sur le plan interne. Selon la situation de l'enquête du procureur général de la République, il peut collaborer avec des enquêteurs internationaux qui viennent. Et de la même manière, la commission peut être mixte, c'est-à-dire il y a des composants qui sont de la communauté internationale et d'autres du plan national. Mais quant à la commission qui est créée sur le plan international, parlons de la commission d'enquête internationale, c'est la composition. C'est l'objectif, le travail de terrain, tout relève à la communauté internationale qui réserve, n'est-ce pas, le droit de décider.
Oui, mais Maître Henri, à ce jour, nous assistons à un jeu de ping-pong. Le commissariat demande une enquête internationale, le gouvernement parle plutôt d'une collaboration avec n'importe quelle justice pour établir la vérité dans cette affaire. Est-ce que c'est un jeu de mots ou peut-être une véritable question de sémantique entre la collaboration et l'enquête internationale? Vous venez d'ajouter une enquête mixte ou encore une enquête conjointe. Mais comment ça se passe concrètement en droit international?
Pour être plus précis, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande la création d'une commission d'enquête internationale. Création d'une commission d'enquête internationale. Et quand on parle des commissions d'enquête internationales, nous n'avons pas à nous fourvoyer à chercher des terminologies. C'est l'autorité qui décide de la composition de cette enquête-là. Bien sûr que si le gouvernement aurait et devra même démontrer toute sa bonne foi pour accélérer avec ces enquêtes et le faire ensemble avec les enquêteurs qui viennent de l'international. Parce qu'il y a des doutes. C'est pour cette raison que la communauté insiste pour que tout se clarifie. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont des pressions politiques. Non, pas seulement des pressions politiques, parce que on parle des 3000 morts. C'est quand même grave. Et d'aucuns parlent déjà d'un génocide. Et génocide, ça relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Génocide, quand on parle des fosses communes, parfois, le gouvernement congolais n'a pas l'expertise nécessaire pour mener ces enquêtes. C'est tout le problème qui se pose. Ce n'est pas un problème de sémantique, mais c'est un problème de fond. Parce que
lorsque... Bon, alors si vous pouvez peut-être, Maître Henri, vous pouvez peut-être nous aider. C'est vrai, on est d'avis que les uns réclament une enquête internationale, d'autres parlent, acceptent, mais sous réserve, ou encore on peut dire sous certaines conditionnalités, en demandant que la RDC puisse prendre la direction de cette enquête. Alors, quelles peuvent être les forces et les faiblesses, soit de cette collaboration ou de cette enquête internationale?
Nous disons, lorsqu'il y a une commission d'enquête internationale qui est décidée...
Non, nous parlons de cas de la RDC actuellement, avec le massacre au Kasaï. Quelles peuvent être les forces de cette collaboration et comment classons-nous, par exemple, les faiblesses?
Oui, les forces de l'enquête d'une commission d'enquête internationale, c'est qu'il y a beaucoup plus d'indépendance et apparemment, la majorité des Congolais croient qu'avec une commission d'enquête internationale, il y aura beaucoup plus de vérité dans toute indépendance. D'autre part, pour le gouvernement, il estime qu'il faudrait qu'il fasse le travail ensemble avec les experts internationaux. À ce niveau, il y a aussi un avantage, c'est que les nationaux peuvent aider plus facilement les enquêteurs à aller partout où on peut chercher la vérité. Mais ce n'est pas absolu, parce qu'on peut aussi flouer la vérité, on peut aussi mettre des obstacles pour obtenir toute la vérité, rien que la vérité. Voilà pourquoi nous disons que, en ce moment, notre gouvernement a une très grande mission de démontrer toute la vérité et d'accepter, de savoir aussi fléchir. Surtout, c'est un problème de la responsabilité des responsables. Et aucun croit aujourd'hui que c'est directement le chef de l'État. Non, le chef de l'État peut aujourd'hui lâcher les commandants qui étaient sur le terrain. Parce que tout ce qui a été fait, par exemple par rapport aux policiers ou aux militaires qui ont tué, soi-disant, les camions Sapou et même la population, là, c'est un génocide. C'est de la responsabilité de l'État. Et le chef, le commandant, qui aurait dû connaître, savoir que quelque chose se passerait dans ce sens, peut avoir sa responsabilité. Et on finit avec ce comité, avec toutes ces commissions, on peut revenir à la création d'une juridiction internationale.
Voilà, alors Maître Henri, pour terminer avec vous, quel regard portez-vous sur ces rebondissements dans cette affaire? Premièrement, on présente des présumés suspects au niveau de la cour d'ordre militaire, et deuxièmement, c'est le procureur qui rentre en scène en présentant ou en décidant donc d'amener des enquêtes autour de cette publication d'un média américain. Et puis, troisièmement, il y a un procès au Kasaï qui s'ouvre avec un jeune de moins de 18 ans. D'ailleurs, la loi, cet enfant est frappé d'incapacité judiciaire qui ne peut pas d'ailleurs se présenter en ce moment. Il se tient d'ailleurs un procès au niveau de Kananga et aussi un paysan qu'on a présenté comme le présumé suspect.
C'est justement à ce niveau que se situe le discrédit que les gens portent aujourd'hui par rapport aux actions du gouvernement quant à cette affaire. Il y a eu des tergiversations et certains actes posés n'inspirent pas beaucoup de confiance. Et c'est pourquoi nous disons encore qu'il faut se rattraper, se ressaisir très vite. Parce que même le PGR, quand il a parlé, après la publication dans le journal américain, il a dit non, on va mener des enquêtes et on va aboutir à la destruction méchante, au meurtre, aux coups et blessures. Non, ce n'est pas ça. Il y a un problème de fond, c'est un problème de génocide. Et le génocide, c'est cette attaque-là qui se fait de manière systématique, généralisée, faire contre un certain groupe d'individus qui sont extirpés, qui sont tués dans ces conditions que les gens sont en train de déplorer. Donc voilà un peu notre...
Voilà, merci Maître Henri. On revient à vous d'un moment à l'autre, le temps peut-être d'accueillir d'autres auditeurs qui nous ont aussi rejoints à ce niveau du débat. Vous êtes nombreux à pouvoir interagir sur notre page Facebook. Et là, nous vous signalons et nous disons d'ailleurs merci à tous les internautes qui ont pu commenter ce sujet qui a atteint plus de 4500 auditeurs. D'ailleurs, nous sommes en train de le voir sur notre page Facebook. Merci, on va découvrir les commentaires des uns et des autres d'un moment à l'autre. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net, à votre service.
Pensez-vous qu'une collaboration internationale est vraiment opportune? Albert, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour notre invité. Monsieur le journaliste, vraiment le sujet est très pertinent. Nous sommes totalement désolés des comportements du gouvernement congolais. Il veut toujours banaliser les massacres commis sur l'espace Kassai. Mais je regrette beaucoup où il faut toujours attendre la communauté internationale qui puisse faire des pressions sur ce gouvernement afin d'ouvrir l'enquête selon les concepts employés par le gouvernement. Collaboration conjointe, tout ça. Mais ce que nous voulons, le peuple congolais, c'est quoi? C'est l'enquête internationale. Une enquête qui doit être neutre, une enquête qui doit aboutir au résultat pour établir les responsabilités. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous rappeler une chose. Le gouvernement congolais n'a jamais ouvert une enquête ici au Congo et cette enquête produit les effets ou les résultats. Je prends l'exemple, la fosse commune des Maluku, les massacres des Beni, l'évasion des prisonniers dans nos prisons qui est devenu vraiment en fait un phénomène. L'assassinat de Floribert Chebeya. Je me pose la question, ce gouvernement ici a déjà ouvert une enquête et quels sont ses résultats? Donc, nous ne pouvons pas espérer au gouvernement de ces enquêtes, mais nous voulons l'enquête internationale neutre et qui doit établir les responsabilités. J'aimerais vous rappeler encore une chose, monsieur le journaliste. Le massacre ici au Kassai, mais écoutez, il y a encore les gens qui vivent dans des forêts, qui restent dans des forêts jusqu'à présent. Les cas ici au niveau de Luisa, Masuika, tout de même, il y a les gens encore qui vivent dans la forêt.
Oui, mais Albert, nous avons relevé ça lors de notre dernière émission. La situation humanitaire, elle est presque très préoccupante. Je crois que déjà les humanitaires sont à pied d'œuvre pour arriver à apporter l'assistance à toutes ces personnes qui sont encore dans les forêts. Plus d'un million, disons, il y a le besoin qui.
Cette contrainte n'est pas encore visée parce que on ne sent rien. Nous informons en fait de ces gens de ce côté. Mais comme si il n'y a pas une volonté là de descendre là-bas. Raison pour laquelle nous interpellons le gouvernement congolais de lancer aussi quand même des campagnes de sensibilisation pour que les gens qui sont dans des forêts puissent sortir de la forêt.
Voilà, merci beaucoup. Donc,
nous informons en fait davantage pour que.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Albert d'avoir appelé de Kananga. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Selon vous, est-ce que cette collaboration internationale est vraiment opportune? Franck, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés. Je vais commencer par rappeler un action historique. Le temps est limité de mesure de l'histoire, et l'histoire en est le juge suprême. Si nous devons argumenter à partir de cet aspect, ça peut vraiment être plus consistant. Pourquoi? Parce que nous devons commencer par rappeler, monsieur le journaliste, que la vie de chaque individu, pas seulement selon l'esprit et la philosophie de notre constitution congolaise, mais aussi dans l'optique même biblique, la vie de chaque individu est déjà sacrée. Et cet aspect de la sacralité de la vie des hommes n'est pas seulement reprise dans l'introduction de notre constitution, mais on la retrouve dans la plupart des constitutions des pays, d'autres pays. Alors, à partir de cet aspect, vous avez quelque part au début là parlé d'une certaine nébuleuse qui existe dans le déroulement de ces dossiers. Mais je crois qu'il faut le reconnaître parce que si nous devons encore parcourir l'ensemble des attitudes qu'affichent les membres du gouvernement, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, sur vos propres ondes, la semaine passée, un des invités de dialogue entre Congolais, c'était un ministre honoraire qui l'a clairement dit que des enquêtes comme ça mettent le gouvernement mal à l'aise parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. Mais moi, je crois qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à cet aspect-là d'être mal à l'aise. Nous devons nous poser la question, pourquoi nous devons maintenant nous mettre mal à l'aise? Monsieur le journaliste, reposant encore des questions à l'histoire, le confrère qui venait d'intervenir avant moi l'a déjà épinglé. Quelle est cette enquête que notre gouvernement a déjà menée et qui a déjà donné des résultats escomptés? Le massacre des Bundu du Congo depuis 2007, je ne sais pas s'il y a des résultats. Le massacre vers l'est là-bas à Beni, Je ne sais pas s'il y a des résultats. Tchebe, à son chauffeur, je ne sais pas s'il y a des résultats. Il y a des journalistes qu'on a assassinés par-ci, par-là, à l'est, à Kinshasa. On n'a même pas de résultats. Et maintenant, l'histoire du Kasaï s'ajoute, mais avant cette histoire du Kasaï, nous devons ajouter les massacres de janvier 2015, au mois de, vers la marche, puis au mois de septembre 2016. Et tout cela fait que, pour le moment, que chacun cherche à savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays-là? Et puis déjà, si au niveau de notre propre gouvernement, on n'arrive pas à faire aboutir des enquêtes, maintenant qu'il y a des citoyens non congolais qui sont victimes, est-ce que nous pensons que ces gens-là vont nous laisser des mains libres? Parce que chez nous, nous nous sommes peut-être habitués à voir des gens mourir, nous nous sommes peut-être habitués à banaliser la réalité de la mort, mais ce n'est pas la culture de tout le monde. Et je crois que par rapport à la question du départ, moi, je peux vous poser la question. Nous argumentons seulement en tant que simple citoyen congolais, lequel est peut-être habitué à tolérer le mal, à banaliser la mort, à ignorer la sacralité de la vie, ou argumentons-nous en tant que citoyen du monde et lequel ne veut pas voir les gens être sacrifiés comme ça et qui militerait pour la paix et la paix pour tout le monde. Et je crois que, à base de ce qui est déjà passé dans notre pays, il y a un manque de crédibilité. Donc, on ne doit pas avoir honte pour le dire. Il y a un certain manque de crédibilité, si bien que les Occidentaux qui veulent savoir exactement ce qui s'était passé là, ne veulent pas nous voir seulement mener ces enquêtes parce qu'on sait au préalable que ça peut ne pas aboutir. Alors, pour répondre finalement à votre question, les enquêtes de ce genre ne serait pas opportune pour ceux qui se savent être impliqués dans les coups. Parce qu'ils se disent, dès que la vérité sera connue, donc on sera exposé. Alors le gouvernement va aussi peut-être perdre en crédibilité. Mais les hommes épris de bonne volonté, les hommes qui veulent la paix, les hommes qui militent pour la sacralité de la vie, les observateurs avertis, aimeraient un peu savoir, pas seulement par rapport à ce qui se passe dans le Kasaï, mais on aimerait un peu savoir, mais qui est cet instigateur, qui est ce Rambo, qui est ce régisseur qui ne fait que mettre les autres en action pour aller assassiner. Et lui, il est quelque part là, il a croisé ses bras. Donc moi, je crois que nous devons chercher à déterminer. Nous argumentons en tant que simples citoyens congolais, ou bien nous argumentons aujourd'hui en tant que citoyens du monde. Et nous argumentons à base de quelle histoire? De l'histoire universelle du monde ou bien de l'histoire de notre politique qui est parfois habituée à dire oui, non et peut-être à la même seconde.
Voilà merci, ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Franck. Maître Sonville, vous êtes avec nous, bonjour, d'être venu échanger avec nous. Vous êtes avec nous à Lubumbashi, bonjour.
Je suis avec vous, je suis à Lubumbashi. Et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Est-ce que vous estimez, comme les autres, qu'il y a également de points positifs
à pouvoir tirer dans cette enquête, dans cette collaboration internationale. Et de l'autre côté, il y a aussi quelques craintes, il y a aussi quelques faiblesses qu'on peut constater, et surtout en ce qui concerne l'affaire telle que présentée par le gouvernement, en demandant, en acceptant d'abord cette enquête internationale ou cette collaboration internationale, sous réserve et sous conditionnalité, de voir la RDC piloter cette enquête.
D'ailleurs, je saisis cette opportunité, je saisis cette aubaine pour présenter d'abord mes condoléances au peuple congolais qui a péri dans des conditions inhumaines, qui a été assassiné, même des petits-enfants, même des... C'est regrettable pour un pays comme la RD Congo. Nous ne sommes pas habitués à de telles manières. D'où est provenue cette manière-là de tuer des gens comme des bêtes? Ça, c'est en tout cas, je fustige cela.
Allez tout droit au ville, mettez son ville. Quelles sont les forces?
Monsieur JR, vous savez que...
Quelles sont les forces?
Vous savez qu'à l'entame de cette histoire... Oui, quelles vous savez les... qu'à l'entame de cette histoire...
Oui, quelles sont les forces qu'on peut tirer de cette affaire, de cette collaboration internationale? Est-ce qu'il y aura, indépendance de la justice? Est-ce qu'il y aura...
Oui, voilà. C'est à l'entame même de cette histoire-là. Il y a eu M. Mende qui avait fait cela soit disant que c'était un montage de Moïse Katumbi Chapwe. Et par après, il s'est dédié. Toi disant qu'effectivement,
quelles sont les forces?
Moi, je sens que c'est un mauvais départ par rapport à l'enquête au niveau national. Ça peut influer sur cette enquête-là. C'est ainsi que nous voulons que la communauté internationale puisse prendre les devants de ces enquêtes, puisque ce n'est pas seulement le Congolais qui a été tué, il y a eu même le personnel onusien qui a été tué. Et l'ONU a tous les droits d'enquêter sur cette affaire, sur cette criminalité. Et au-delà de ça, je demanderais même à ce niveau que le ministre de Justice et de l'Intérieur puisse démissionner, puisque l'on n'a pas pu faire le travail comme il se doit. Aujourd'hui, il y a eu des morts à Kananga, il y avait eu des morts à Lubumbashi, il y avait eu des morts à Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont les évasions organisées, orchestrées par, je ne sais pas si j'ai le pouvoir, au niveau des différentes prisons. Il y a encore des morts. Quand est-ce que nous, les enquêtes du Congo aboutiront? Ça, c'est un fait. Nous avons eu nos frères qui sont venus de Brazzaville, qui sont venus ici. Et séquestré, malmené au Brazzaville. Jusque-là, les enquêtes n'ont pas encore abouti. Comment est-ce que vous faire confiance à cette justice congolaise? Nous savons qu'il y a de bons juges, il y a des juges, il y a des magistrats qui sont compétents. Mais le système dans lequel travaillent ces magistrats ne leur permet pas de faire convenablement leur travail. C'est ainsi que nous devons recourir à une enquête internationale pour sauver le meuble.
Merci
beaucoup. S'il n'y a pas d'enquête internationale, et les tueries, là, vont toujours continuer.
Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi et surtout d'avoir contribué à cette émission. Parole aux auditeurs. Résultat, vu la réponse systématiquement insuffisante des autorités nationales, mais vu aussi la gravité et l'ampleur des violations des droits de l'homme dans les Kassai et au commissaire Zaïd, estime désormais qu'il faut enquêter, il faut une enquête internationale pour compléter les efforts de la RDC, une enquête qui porte aussi sur les 42 fosses communes découvertes par l'ONU dans la région où les violences sont toujours en cours. Cette crise a fait près de 1 500 000 de déplacés depuis août dernier. Maître Henri, aujourd'hui, c'est vrai, après avoir écouté les uns les autres, Maître Henri, vous êtes avec nous. Quelle peut être la solution? Vous l'avez dit, c'est vrai, il y a quand même des aspects positifs que nous pouvons tirer de cette enquête internationale, notamment l'indépendance de la justice et la crédibilité. Mais vous n'avez pas pu évoquer aussi les faiblesses qu'on peut constater aujourd'hui, du fait que la RDC accepte une enquête internationale, mais sous sa direction. Maître Henri,
C'est déjà une entorse. Si le Conseil des droits de l'homme veut créer une commission d'enquête indépendante internationale, dans ces conditions, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas la coordination qui revient au gouvernement. Ça, nous devons nous le dire dans ce sens, on doit comprendre cette réalité. Mais au-delà, si le gouvernement veut démontrer sa bonne foi sur le terrain, les inviter à démontrer toute sa bonne foi, ils peuvent coopérer, ils peuvent collaborer. Et pour la population, comme nous le constatons, la majorité aujourd'hui voudrait qu'on puisse connaître la vérité sur ces événements. Il y a beaucoup de victimes. Et si ils tiennent compte de cette commission d'enquête internationale indépendante, c'est pas ça. Ils sont en train d'épingler certaines failles qui ont été constatées, qui ont émaillé toute la procédure et tout ce qui s'est fait. Et donc, à ce niveau-là, nous disons
il appartient à notre gouvernement de savoir jouer. Savoir jouer. Et savoir faire aussi avec la communauté internationale. Ici, je voudrais dire que cette tendance à parler des droits de l'homme comme une affaire des Occidentaux, peut-être c'est par ignorance de certains responsables. Aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme est incorporée dans notre Constitution. Et quand on parle des droits de l'homme, c'est devenu une affaire nationale. Ce n'est pas une affaire des Occidentaux. Le droit à la vie, ce n'est pas seulement un droit occidental, c'est même pour les Congolais que nous sommes ici. Et parler des attaques comme on est en train de les déplorer, dès l'instant qu'il sera prouvé, établi que les autorités militaires ou politiques se sont impliquées dans ce qui s'est passé, il y a des génocides. Et la compétence aujourd'hui, c'est la Cour pénale internationale. Et dans d'autres circonstances, par le passé, c'était les tribunaux, pénaux hein, internationaux. Mais aujourd'hui, c'est la Cour pénale internationale. Donc, il n'y a pas question d'avoir crainte, mais c'est question d'être dans la logique. Parce que la communauté internationale, malgré la souveraineté, elle a aussi une force. Elle a une force dans le cadre de la de la responsabilité de protéger. C'est vrai que la souveraineté revient à l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, ce ne sont pas seulement les dirigeants. C'est aussi cette population qui est massacrée, qui serait massacrée. Et d'ailleurs, à la population que revient cette souveraineté selon notre article 5 de la Constitution. À ce niveau, nous disons, il y a beaucoup fort à fournir et que l'on clarifie les choses et que les responsables soient seulement sanctionnés.
Voilà. Et on va terminer. Merci beaucoup.
On a déclaré ici, il y a eu le massacre tel part et tel autre, des génocides, des crimes contre l'humanité. Notre gouvernement, depuis même la publication du rapport mapping des Nations Unies, il y avait une enquête internationale, on n'a jamais cherché à créer une juridiction quelconque, ou bien on n'a jamais eu l'intention de créer une commission de vérité et réconciliation. C'est d'absolument là que nous déplorons aussi la position de notre gouvernement. Tous ces morts-là ne sont pas des morts gratuites. Il faudrait que l'on connaisse la vérité, que les victimes soient indemnisées.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Henri. Merci beaucoup, Maître Henri. Et nous rappelons que à chaque fois, le Haut Commissariat aux droits de l'homme martèle que c'est depuis le mois de mars qu'il demandait, au mois de mars et puis au début du mois de mai, qu'ils ont demandé au gouvernement congolais de faire mieux en termes de transparence, de crédibilité de leur enquête et de collaboration avec l'ONU. Alors c'était sans succès, selon Zeid Raad Al-Hussein. Alors et aujourd'hui, ils reviennent encore à la charge pour demander pratiquement la même chose. Mais deux jours après que le gouvernement ait levé l'option, on a senti encore le Haut Commissariat monter au créneau pour marteler davantage que, effectivement, la réponse du gouvernement congolais est à ce jour insuffisante. Alors, donc le débat est ouvert et nous continuons les débats sur notre page Facebook et aussi pour tous ceux qui sont à l'étranger. Nous rappelons que ce sujet a atteint plus de 5000 auditeurs à travers le pays et à l'étranger et quelques centaines ou 200 personnes ont commenté à ce sujet. Merci à vous tous. Claude, on va terminer avec vous. Juste placer un mot et puis on va clôturer cette émission. Claude, vous êtes à Likasi. Bonjour.
Merci beaucoup, en tout cas. Je suis en train de me demander, est-ce que les autorités écoutent cette émission? Est-ce que la radio Okapi sélectionne seulement les opposants, les gens mal à l'aise pour ne pas approuver leur constitution? Je pense que ce n'est pas ça. Ce sont les Congolais, n'est-ce pas, nationalistes amoureux de leur pays qui essaient d'intervenir. Vous savez...
Ben alors, à ce niveau, il faut préciser que le débat est libre sur notre page Facebook. Il ne suffit pas de
rappeler qu'on est souverain.
Voilà. Merci beaucoup, Claude. On ne sait pas aller plus loin avec vous. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci aussi à Henri qui nous avait appelé de Kinshasa.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. Mimi Kindou, Nico Kalambay et Piro et la Mégie. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.